On le sait tous, là, nous sommes loin d'en avoir fini avec la COVID-19, mais rien n'empêche que depuis le début de la pandémie, ben on a le droit comme société de s'interroger sur les mesures qui sont prises. Est-ce qu'on intervient de la bonne façon? Est-ce que la santé publique a pris les bonnes décisions? Est-ce que le gouvernement gère la crise du bon endroit, Montréal, Québec? Poursuivons justement la discussion avec notre prochain invité, ex-ministre de la Santé du gouvernement du Parti québécois, spécialiste en gérontologie, le docteur Jean Hébert. Docteur Hébert, bonsoir.
Bonsoir, Mario.
Qu'est-ce que vous pensez de la discussion publique qui s'installe actuellement avec des gens de tout parti, des anciens ministres, des gens qui sont au pouvoir actuellement, les articles des journaux, les directeurs de santé publique par rapport à la façon dont tout ça est mené et pourquoi que ça marche pas comme on l'aurait souhaité?
Ben, je pense que tout le monde s'entend pour identifier un certain nombre de causes. L'une de ces causes-là, c'est qu'on a négligé, évidemment, tout le secteur des soins aux personnes âgées au cours des 30 dernières années. Les soins à domicile et les soins à l'institution. Deuxième grand facteur qui est identifié, c'est la réforme de structure que le ministre Barrette a menée en 2015 et qui a créé ces monstres administratifs et qui ont un peu fait perdre leur âme au CHSLD parce que là, ils sont des installations parmi un grand ensemble et ils sont souvent négligés parce que ces grands ensembles-là ont une priorité qui est les hôpitaux. Et donc, tout le secteur des soins à domicile, le secteur des CHSLD a été négligé dans ce grand ensemble-là. Puis c'est aussi une réforme où la santé publique a été comme intégrée dans le système de santé, alors qu'auparavant, elle était en marge, elle était indépendante et donc elle avait des coudées plus franches. Alors, tous ces facteurs-là là, font qu'on a la crise qu'on vit actuellement et surtout que la réaction des établissements est pas aussi rapide et pas aussi agile qu'on le souhaiterait parce que c'est vraiment des gros monstres administratifs là, qui ont de la difficulté à bouger, à réagir rapidement. Et ça a été déterminant au début de l'éclosion de la COVID dans les établissements d'hébergement.
Est-ce que ça vous dérange, Jean Hébert, depuis le début de la pandémie, d'avoir senti puis d'avoir constaté que la crise était du côté du gouvernement québécois, gérée depuis Québec et non de Montréal? Est-ce que ça vous a agacé?
Non, ça m'a pas agacé. Le centre de décision du gouvernement est à Québec, là, et le Conseil des ministres est à Québec. Ça m'a pas agacé. Étant donné les moyens de communication qu'on a actuellement, je pense pas que ça a été un facteur déterminant. Puis, je pense pas que c'était ce que Dr. Mylène Drouin voulait dire non plus. Lorsqu'on écoute son entrevue, elle a pas vraiment critiqué la gestion de la crise de la COVID. Elle a critiqué beaucoup plus le fait que les réformes de 2015 ont paralysé partiellement la santé publique et deuxièmement que les coupures de 30% que la santé publique a eu dans son budget de base a fait en sorte que le personnel, les ressources humaines nécessaires pour être capable de réagir à cette crise-là n'étaient pas optimales. Alors, on récolte ce qu'on a semé à la fois au niveau des soins aux personnes âgées et au niveau de la santé publique qui a été négligée elle aussi au cours des dernières années.
Tout n'était pas parfait le temps que vous avez été ministre de la Santé, Régent Hébert, parce que vous avez eu un héritage, puis vous n'avez pas été là assez longtemps pour tout transformer. Mais est-ce que vous l'avez encore sur le cœur, la réforme du ministre Barrette qui a suivi votre séjour au pouvoir? C'est encore de quoi que... Parce qu'on sent que ça revient souvent. Là. Tout le monde pointe dans cette direction-là. Et on sent aussi que pour l'ex-ministre Barrette, c'est difficile d'assumer une partie de la responsabilité ou quand on le fait, ben on veut tout de suite en rejeter une partie ou redévier la conversation vers autre chose, comme ouais. On n'a pas commandé les masques à temps. Mais vous, l'avez-vous encore sur le cœur?
Ah ben moi, je l'ai sur le cœur. Je suis pas le seul à l'avoir sur le cœur. Je pense que le Québec va l'avoir sur le cœur pendant longtemps. C'est une réforme qui, de l'avis de tous les experts, je suis pas le seul, là, de l'avis de tous les experts, est une mauvaise réforme. Une réforme qui a centralisé à outrance les décisions autour du ministère de la Santé à Québec. Et je pense que c'est une réforme qu'il faudra aménager pour être capable de vivre avec. Parce que les gens, la dernière chose que les gens veulent avoir, c'est une autre réforme, là. Dans le domaine de la santé, mais il va falloir aménager les établissements, ces gros monstres administratifs, pour qu'on puisse délocaliser la décision vers la population, vers les localités, vers les établissements que sont les CHSLD, là, qu'on ait des gens responsables à l'intérieur des CHSLD, qu'on ait des gens responsables au niveau d'un secteur de la population, parce que ça n'a pas de bon sens d'avoir, par exemple, un établissement qui couvre tout l'Estrie de Green Bay, Coansville, jusqu'à Lac-Mégantic, c'est impossible à gérer. Alors, il va falloir décentraliser le réseau de la santé, sans faire une grosse réforme de structure, encore une fois, parce qu'on n'en veut plus là, de réforme de structure, mais je pense qu'il y a moyen d'adapter le système de santé pour diminuer les effets nocifs de la réforme Barrette. Je pense que ce fut une mauvaise réforme, je continue à le dire. On le disait d'ailleurs, mes collègues du département de gestion, évaluation et politique de santé à l'École de santé publique l'ont dit lors de la commission parlementaire. La plupart des scientifiques l'ont dit au Dr Barrette, les données probantes n'allait pas vers cette réforme, vers cette centralisation-là, mais il l'a fait quand même, envers et contre tous ces avis-là, et on voit qu'aujourd'hui, on récolte les pots cassés.
Quand, il y a quelques semaines, la ministre Marguerite Blais a évoqué l'idée avec son premier ministre, François Legault, d'accélérer le déploiement des maisons pour aînés, vous nous avez dit ici à l'antenne, Dr Hébert, que vous n'étiez pas sûr qu'on avait compris quoi que ce soit si on annonçait quelque chose comme ça. Comment réagissez-vous à la nouvelle annonce visant à aider le système dans les résidences personnes âgées, d'aller chercher 10 000 nouveaux employés en augmentant les salaires. Celle-là, est-ce qu'elle vous a plu davantage que l'autre?
Elle m'a plu davantage, mais le problème, Mario, c'est que les préposés, ils travaillent aussi dans les entreprises d'économie sociale pour l'aide à domicile. Ils travaillent aussi dans les résidences privées. Alors, si on augmente les salaires et les conditions de travail dans le public, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un drainage de ce personnel-là vers le public. Et là, on va avoir un problème dans les soins à domicile, puis on va avoir un problème dans les résidences privées. Alors là, il va falloir regarder la situation globalement et être en mesure d'améliorer les conditions de travail dans les entreprises d'économie sociale, parce que les gens qui travaillent dans ces entreprises-là travaillent souvent un peu plus qu'au salaire minimum, mais à peine. Alors, c'est...
Pensez-vous qu'on va régler quelque chose de cette façon-là ou qu'on va juste créer d'autres situations, qu'on va se rendre compte 3 ans plus tard qu'on a créé d'autres problèmes?
Ben, je pense qu'on va se rendre compte qu'on a créé d'autres problèmes parce que on regarde pas la situation globalement. Il faut regarder les soins aux personnes âgées de façon globale, du domicile jusqu'à l'institution. Et si on en prend juste un morceau, qui est le CHSLD, on n'aura pas réglé ce problème-là. Il va y avoir d'autres problèmes qui vont survenir ailleurs. C'est comme si on essayait de mettre son doigt dans un barrage qui est en train de s'écrouler, si on regarde pas le barrage au complet, il va y avoir une inondation là. Et je pense que c'est important de pouvoir avoir ce regard-là. Et quand on répond à la crise actuelle dans les CHSLD en créant un autre type d'institution que sont les maisons des aînés, moi je pense qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris que c'est par le maintien à domicile qu'on va éviter justement que les gens se retrouvent dans des milieux collectifs comme les résidences, comme les ressources intermédiaires, comme les CHSLD et comme les maisons des aînés, avec tous les inconvénients que cette vie-là en collectivité peut occasionner lors d'éclosions de maladies infectieuses comme on connaît actuellement.
Il y aura une enquête du protecteur du citoyen pour savoir ce qui s'est passé dans les résidences personnes âgées. Est-ce qu'une enquête publique serait souhaitable pour analyser? Est-ce qu'on aura besoin de cette, je ne sais pas si on devrait appeler ça une thérapie collective, mais ce grand examen collectif de la façon dont ça a été géré, est-ce qu'on a échappé?
Oui, moi je pense que c'est inévitable. Je pense pas que le gouvernement va pouvoir faire l'économie d'une enquête publique. La protectrice du citoyen a des moyens d'enquête, mais ce sera des enquêtes qui sont privées et les cas sont traités de façon confidentielle. Alors, je pense qu'on a besoin de pouvoir écouter les victimes, de pouvoir écouter le personnel, comme on a écouté les Forces armées canadiennes. On a besoin d'écouter le personnel qui a vécu cette catastrophe-là. On a besoin d'écouter les familles qui vont venir témoigner de ce qui s'est passé pour être capable de pouvoir identifier ce qui n'a pas marché, identifier ce qu'on aurait pu faire différemment au début de la crise pour éviter l'éclosion et la propagation. Et, le cas échéant, identifier les coupables aussi. Il y a peut-être des gens qui ont mal fait leur travail et je pense qu'il faut être capable, être en mesure de pouvoir les sanctionner.
Ce qui ressortira autant par l'enquête de la protectrice du citoyen que peut-être une enquête publique, on sera obligé de constater, comme l'armée l'a constaté d'ailleurs dans son rapport, que dans des cas, oui, il y a eu des manques d'équipement, il y a eu des négligences, mais il y y a eu un abandon. C'est comme si des soldats avaient déserté. C'est triste. Puis je sais pas quelle est la mesure pour changer cette situation-là si on faisait face à une autre pandémie, Dr Hébert. Hein?
Ben, je pense qu'il faut avoir des conditions de travail dans le réseau de la santé pour les personnes âgées, que ce soit dans les soins à domicile ou dans les CHSLD, des conditions de travail qui font que la charge de travail est raisonnable, qui font qu'on a un bon encadrement professionnel. Il n'y a pas juste un manque de préposés dans les CHSLD, il y a aussi un manque d'infirmières pour être capable d'encadrer le travail des préposés. Ce sont les infirmières qui apportent la compétence pour être capable de planifier les interventions de soins, être capable d'appliquer les bonnes techniques de prévention et les bonnes techniques d'intervention. Et il faut aussi un personnel médical pour être capable justement d'avoir cet encadrement médical pour des personnes âgées qui ont de multiples conditions chroniques et qui ne sont pas des cas simples, là, qui sont des cas complexes. Et je pense qu'il faut avoir un retour des médecins dans les CHSLD qui ont été déménagés, déplacés vers les cabinets parce que M. Barrette voulait qu'il y ait des quotas de suivi de patients en cabinet. Ben ça a fait en sorte qu'il y a des médecins qui pratiquent en CHSLD qui ont été obligés de retourner au cabinet. Et donc, il y a une pénurie également de médecins qui s'est installée dans les CHSLD, d'infirmières et une pénurie de préposés. Et si on ne règle pas ce problème de ressources humaines et ce problème de surcharge de travail, ben il y a des gens qui vont tomber au combat puis qui vont déserter à un moment donné lorsque la coupe est trop pleine.
C'est un ministère tellement important au Québec, puis j'imagine dans tous les gouvernements, le ministère de la Santé. Vous avez été assis, Dr Hébert et Jean Hébert, dans la chaise du ministre de la Santé. Dans ces temps de pandémie, vous n'avez pas géré la pandémie, mais il reste qu'il y a des décisions importantes qui se prennent là. C'est quoi être assis dans cette chaise-là d'un ministère aussi crucial et être sujet à la critique à une époque des médias sociaux? Prendre des grosses décisions, si vous vous référez à votre époque, autant que celui qui est là ou celle qui est là actuellement, est-ce que c'est stressant de faire face à l'opinion, au directeur de la santé publique, Arruda? Dans le langage sportif, on dit souvent le second guessing. Là. Difficile à assumer?
Ben, je pense que c'est un travail que j'ai adoré. Là. J'ai adoré chaque minute de ces 18 mois où j'ai été dans ce poste-là parce que c'est là que les décisions se prennent, c'est là qu'on peut agir pour améliorer la qualité des services aux personnes. Et dans une position comme celle-là, il faut d'une part être capable de bien s'entourer et de faire en sorte, et c'était mon approche, de décentraliser les décisions parce qu'il n'y a rien de pire que de centraliser les décisions autour de soi parce que c'est justement l'erreur qui a été faite, je pense, au cours des dernières années, c'est de centraliser tout l'ensemble des décisions autour du ministre de la Santé. Je pense qu'il y a d'excellents gestionnaires dans le réseau. Il faut leur donner les responsabilités et il faut aussi toujours bien se rappeler qu'on s'occupe d'individus malades, vulnérables et que toutes les décisions qu'on prend ont un impact direct sur les personnes, non seulement celles qu'on soigne, mais également les soignants. Et il faut être toujours conscient de ça lorsque on occupe une position comme celle de ministre de la Santé.
Est-ce qu'il y a des moments où, depuis le début de la pandémie, vous auriez aimé avoir l'influence d'intervenir sur la façon dont ça a été fait? Ou avez-vous une idée de comment M. Arruda se sent depuis le début de tout ça, d'être identifié comme le boss de la santé publique avec tout ce que ça importe?
Ben, je pense qu'il y a beaucoup de pression qui est mise sur les épaules d'Horacio. C'est quelqu'un d'extrêmement compétent. Je pense qu'il est une révélation. Dans la crise actuelle, on avait besoin d'un Horacio pour être capable de pouvoir apporter cette touche scientifique aux décisions politiques. Je pense que c'est absolument crucial. Moi, je suis comme quelqu'un qui est dans les estrades et puis j'aimerais bien sauter sur la glace aussi, mais malheureusement, mon équipe n'est pas en finale de la Coupe Stanley.
Oui, c'est vrai. À moins que quelqu'un organise un tournoi quelque part.
Alors, c'est ça. Je me contente d'être sur le bord de la bande et si jamais on fait appel à moi pour apporter mon expertise scientifique, ben je vais répondre présent, évidemment.
Je n'en doute pas un instant. C'est tout le temps qu'on a. Régent Hébert, merci beaucoup d'avoir été là.
Ça me fait plaisir. Au revoir.
Au revoir. C'était l'ancien ministre de la Santé, spécialiste en gérontologie, le docteur Régent Hébert.